Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'info, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à Amandine. Tous. À la une, l'inflation qui accélère plus 4,5% au mois de mars, c'est simple, c'est du jamais vu depuis 1985. Dans ce journal également, l'inquiétude du candidat Macron alors que l'écart avec Marine Le Pen se resserre. Et puis au Qatar, le tirage au sort de la Coupe du Monde n'a pas encore eu lieu, qu'on pense déjà à la suite. Les Qataris se verraient bien organiser un jour les Jeux Olympiques.
Juste après le journal, on échange bien sûr et comme chaque jour jusqu'au premier tour de la présidentielle, un jour, une proposition aujourd'hui. L'hôpital est à 12h45, retour sur cette vague de froid qui arrive, de la neige, un 1er avril, ce n'est pas une blague. Alors qui va être concerné? Dans quelle mesure? Toutes vos questions en doudoune à Louis Baudin. On vous donnera aussi des conseils pour vos jardins avec le jardinier en chef du château de Versailles.
Notre question du jour sur RTL.fr. Hôpital, avez-vous déjà renoncé à des soins faute de place? Vous dites oui à 35%, non à 57%. La météo avec vous, Peggy. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et on a donc déjà deux départements, vigilance orange.
Oui, vigilance orange, neige, verglas pour le Nord et le Pas-de-Calais. Ce sera à partir de minuit. En attendant, la perturbation sur le Nord, elle circule, elle s'étendra cet après-midi des Charentes aux Ardennes. Entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bretagne, ce sera une traîne active avec des averses, du grésil, de la pluie, pluie et neige mêlées, possible du vent, voire un coup de tonnerre. Et puis des Pyrénées au Nord-Est, des averses de pluie ou de neige des 1000 mètres sur tous les reliefs, sauf sur le pourtour méditerranéen, qui reste à l'écart de ce mauvais temps avec un temps sec, des éclaircies et du vent. Et vous vous en doutez, les températures sont en baisse de 6 à 10 au nord et de 14 à 20 au sud.
Dire que la semaine dernière, on était en terrasse. Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, justement, on vous emmène dans le nord. C'est par là que devraient arriver les premiers flocons de neige. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
On vous retrouve en direct de Lille pour RTL. Lille où ça y est, on a ressorti les doudounes, les gants et les écharpes.
Oui, en effet, moi le premier. J'ai remis la parka d'hiver un peu oubliée ces derniers temps. Pas grand monde ce matin dans le parc de la Citadelle où l'on a perdu au moins 10 degrés en quelques jours. Smine sur son vélo s'est adapté.
Ça pique et c'était pas prévu surtout. La semaine dernière, il faisait encore bon. J'ai mis un genre de polaire et puis bon, je courrais un peu les cheveux. Même on a dû remettre le chauffage. On l'avait quand même bien diminué, mais là, une semaine.
Et heureusement, Jacqueline, une marcheuse du Vieux-Lille, n'avait pas encore rangé ses penderies.
La météo nous donne quand même des prémices. J'avais déjà bien plié mes affaires, mais je ne les avais pas rangées. Ce matin, ça a été la grande surprise parce que c'était quand même assez froid. La grande doudoune, les gants, j'en ai même dans mon sac. J'ai fait le tour de la Citadelle et je rentre chez moi.
Et ceux qui souffrent aussi un peu plus, ce sont ces ouvriers en plein travaux de voirie.
Ah, la semaine dernière, on était en t-shirt, c'est vrai que ça fait un changement radical. Hein. On se protège un peu plus, mais après, c'est pas non plus une grande gênance. Quoi.
Là, vous avez ressorti le bonnet et tout, sous le casque.
Ouais, voilà, protéger les petites oreilles.
Et demain, il prévoit de la neige.
Alors là, on mettra notre après-ski.
Pendant, on s'est réchauffé en travaillant.
Et les cafés du secteur Amandine vont oublier le service en terrasse pour cette fin de semaine.
Ou alors proposer peut-être du vin chaud. Merci à vous, Franck Hanson, en direct de Lille pour RTL.
Une vague de froid et un gros coup de chaud sur les prix.
Oui, on le savait, ça se confirme. L'inflation accélère, plus 4,5% pour le mois de mars, Eric Vanier.
Oui, nous étions en février sur un rythme annuel de 3,6%. Un mois plus tard, chiffre du mois de mars, rendu public ce matin par l'INSEE. Nous passons donc à 4,5%, en cause principalement deux postes. Le prix de l'énergie qui s'est envolé encore plus haut avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et dans une moindre mesure, le coût de l'alimentation et en particulier des produits frais qui, sur les 12 derniers mois, ont quand même bondi de 7,2%. Conséquence automatique, le SMIC, qui est partiellement indexé sur l'inflation, sera revalorisé au 1er mai de 2,4% au moins. Et le taux de rémunération du livret A devrait lui aussi être revu à la hausse dans le courant de l'été.
4,5% au mois de mars sur un an, c'est beaucoup, mais c'est deux fois moins qu'en Espagne, moins aussi qu'en Allemagne, où on est à 7,3%. Comment ça s'explique, Eric ?
Alors ça s'explique par les amortisseurs que nous avons par rapport au prix de l'énergie et que n'ont pas forcément les autres pays. Grâce au nucléaire, nous sommes moins dépendants des soubresauts des marchés internationaux et les mesures prises par le gouvernement comme le gel des tarifs du gaz, le plafonnement de la hausse du prix de l'électricité et à partir de demain la baisse à la pompe de 18 centimes permettent de freiner l'inflation.
Éric Vanier du service économie de RTL. Conséquence directe de cette inflation, le SMIC va augmenter dès le 1er mai, plus 2,4 à 2,6%. Le chiffre exact sera connu mi-avril. Sachez par ailleurs que c'est aujourd'hui que sont distribués les premiers chèques énergie, entre 150 et 277 euros pour les ménages les plus modestes. Près de 6 millions de Français devraient en bénéficier.
Le pouvoir d'achat à présent, toujours préoccupation numéro 1 des Français à 10 jours tout juste du premier tour de la présidentielle.
Oui, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Charente-Maritime. Bonjour William Galibert, vous êtes sur place pour RTL. L'objectif de ce déplacement est assez clair, hein, tenter de redonner du souffle à sa campagne alors que l'écart avec Marine Le Pen se réduit de jour en jour.
Oui, les courbes se rapprochent et la confiance en prend un sacré coup. L'état-major du président candidat admet que sa campagne manque de peps. C'est trop propre, c'est trop lisse, commente un ministre. Emmanuel Macron lui-même est passé hier soir à l'improviste à son QG pour réclamer davantage d'enthousiasme et d'énergie à ses troupes. Et sitôt arrivé ici en Charente, il a jugé que les médias étaient aussi responsables de l'ascension de sa principale adversaire.
Il y a 20 ans, les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front Républicain, etc. Les forces politiques républicaines disaient jamais. Il n'y a plus cette réaction, elle n'est plus là. Parce que si on dit que c'est un programme gentil qui est comme les autres, que ça n'est pas l'extrême droite, ben, tout va bien. Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer, qui sont portés par un clan et un nouveau venu. Je les combats avec force, mais je ne les banalise pas.
Alors comment remettre de l'énergie dans cette campagne? Là, c'est du grand classique. Il faut qu'on le voit serrer des louches, résumé à un proche. Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Depuis son arrivée il y a une heure, Emmanuel Macron a été interpellé sur les retraites, sur l'environnement et il y a quelques instants sur l'usage des cabinets de conseil. Oui, l'affaire McKinsey est arrivée jusqu'aux plages de Charente-Maritime.
William Galibert à Fouras, en Charente-Maritime pour RTL. Dans l'actualité également, ces dernières images d'Yvan Colonna, document assez saisissant diffusé par nos confrères de BFM TV. Des images tournées en janvier dernier dans la prison d'Arles, Cindy Hubert.
Les années ont marqué son visage, les cheveux courts, poivre et sel, mais toujours ce même regard vif. Yvan Colonna se laisse filmer par son co-détenu dans la cour de promenade.
Aïe, montre-moi comment on fait.
Tous les deux jouent aux échecs tout en discutant le sujet, la Corse évidemment. Yvan Colonna semble suivre de très près l'actualité. Il réagit aux déclarations du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui évoquait à l'époque une possible autonomie de la Guadeloupe.
T'as vu, Lecornu, ce qu'il a dit. On peut parler d'autonomie pour la Guadeloupe, etc. Alors chez nous, il y a 68% ils sont pour l'autonomie, au minimum pour l'autonomie, on ne discute pas. Et le Guadeloupe, ils ne demandent rien, ils veulent leur donner l'autonomie.
Nous sommes en janvier dernier. Le militant nationaliste est en prison depuis 19 ans. Mais derrière les barreaux, Yvan Colonna reste très politisé et il prédit l'indépendance de la Corse. « J'ai confiance », répète-t-il, « on va se réveiller ».
On va se réveiller, moi, évidemment. On va se réveiller, t'inquiète pas. Moi, j'ai confiance.
Ah ouais? Tu penses qu'un jour, il sera indépendant, la Corse?
Oui, bien sûr. Mais ça va être indépendant.
Deux mois plus tard, Yvan Colonna est assassiné, étranglé par un détenu islamiste. Depuis, des négociations sont en cours sur une possible autonomie de la Corse.
Récit signé Cindy Hubert du service police-justice de RTL. 10 jours après la mort de l'ancien rugbyman à Rambourou, le principal suspect, Loïc Le Priol, lui a été remis aux autorités françaises. Il devrait être mis en examen dans les toutes prochaines heures.
En Ukraine, un convoi de 45 autocars est en route pour Mariupol pour apporter de l'aide, mais aussi évacuer les civils.
Moscou s'est engagé hier un cessez-le-feu humanitaire, cessez-le-feu qui semble respecté, en tout cas pour l'instant. Il faut bien sûr rester extrêmement prudent. Valentin Boisset et Alice Moreno, les envoyés spéciaux de RTL, se sont rendus plus à l'ouest, à Odessa, où une maison de retraite et une résidence de vacances ont été bombardées il y a quelques jours. Reportage.
Oui, au pied de la porte de ce café, il y a aujourd'hui un trou dans le bitume d'un mètre de largeur au-dessus. Les fenêtres sont explosées sur 5 étages, un immeuble d'habitation où réside Ilana.
J'ai d'abord entendu un gros bruit dans l'appartement. J'ai ouvert les yeux, il y avait de la fumée. Alors je suis allée dans la cave et là, il y a eu une deuxième explosion.
La deuxième roquette atterrit en contrebas sur des résidences de vacances soufflées par l'impact. Elles sont aujourd'hui désertes, mais Adair, le gardien, doit tout de même les surveiller.
J'ai vu les deux missiles partir d'un navire de la mer Noire.
Et pourquoi vous pensez qu'elles ont atterri sur ces habitations?
Écoutez, il n'y a que des civils et une maison de retraite. Soit c'est pour nous terroriser, soit il y a une caserne militaire à 1 km. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas très précis, les Russes.
En repartant, nous passons devant cette caserne dont parle le gardien. Elle est aujourd'hui barricadée derrière plusieurs mètres de sacs de sable.
Odessa, le reportage pour RTL de Valentin Boissé et Alice Moreno. Alors depuis le début de cette guerre, on s'interroge. Qu'y a-t-il dans la tête de Poutine? Quelles sont ses intentions, son état d'esprit aussi? Eh bien, les services de renseignement britanniques et américains sont désormais quasi certains d'une chose, le président russe est mal informé. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Son entourage n'oserait rien lui dire.
Exactement, il a peur de lui dire la vérité, peur d'expliquer la déroute de l'armée russe. Car les informations transmises par le patron des renseignements britanniques ne sont pas glorieuses pour la deuxième puissance militaire du monde. Les soldats sur le terrain seraient à court d'armes, auraient un moral en berne, refuseraient d'exécuter les ordres, voire abattraient leurs propres avions par erreur. D'où cette guerre qui s'enlise, alors que Vladimir Poutine était persuadé qu'elle serait éclair. À tel point que le président russe commence à avoir des doutes sur la stratégie militaire adoptée par son état-major, selon un haut responsable américain. Un climat de tension se serait même installé entre le maître du Kremlin et son ministre de la Défense. Pourtant, les deux hommes sont très proches. On les voit régulièrement en photo ensemble pendant les vacances. Mais dernièrement, Sergueï Shoigu a disparu de toute manifestation publique pendant près de deux semaines. Il n'est réapparu que le week-end dernier. Une situation qui n'a pas manqué d'étonner tant le ministre de la Défense est habitué des écrans de télévision.
Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Merci à vous Sophie. J'ajoute que le chef du renseignement français lui a été remercié en cause de sa mauvaise analyse du risque de guerre en Ukraine.
Et puis on connaîtra demain le programme de la Coupe du Monde au Qatar.
Début du tirage au sort à 18h, mais sur place on pense déjà à l'après, aux Jeux Olympiques. Nicolas Georgerot.
Oui, le Qatar entretient sa diplomatie sportive. Les Jeux Olympiques sont le rêve ultime. Le petit émirat n'a pas abandonné l'idée malgré deux dossiers écartés pour 2016 et 2020, avant même d'être officiellement candidat d'ailleurs et soumis au vote. Cheikh Hassan bin Jabor Al Thani a 52 ans. Il est membre de la famille royale.
Nous avons les infrastructures à présent. Nous devons encore accueillir des événements internationaux pour cela, les ramener à Doha. Si je suis encore vivant, j'assisterai à ces Jeux avec plaisir.
Le Qatar vient d'inaugurer ces dernières heures son musée olympique. Ça faisait 15 ans que les Qataris y travaillaient. Parmi les 28 existants sur la planète, c'est le deuxième en termes de surface. Un élément de plus pour montrer l'attachement au JO. Selon Nasser Al Attiya, quadruple vainqueur du Dakar, le sportif local le plus connu.
Vous savez, on est très chanceux d'avoir l'émir Tamim qui aime le sport. Il a eu l'idée du musée olympique et à présent, je suis sûr qu'on peut encore grandir et grandir dans le futur.
En matière de droits de l'homme, l'émirat devra faire plus, c'est évident. Pour l'instant, pour 2032, c'est l'état du Queensland en Australie qui est favori. Le Qatar envisagerait plutôt 2036.
Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL au Qatar. Nicolas, avec qui on suivra bien sûr bien demain sûr. Hein, dès 18h le tirage au sort en fil rouge tout au long de la soirée sur RTL.
Coupe du Monde exceptionnellement programmée, vous le savez, en novembre et décembre de cette année 2022. Dans un instant, comme chaque jour, premier tour jusqu'au premier tour de la présidentielle, un jour, une proposition. Aujourd'hui, l'hôpital.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Présidentielle 2022. J-10.
Nous manquons de professionnels dans tous les secteurs. Un tsunami démographique menace. Nous sommes à la veille d'un moment historique pour notre système de santé. Soit celui du relèvement, soit celui de l'effondrement.
C'était il y a deux semaines tout juste. Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, appelait les candidats à la présidentielle à agir pour l'hôpital et vite. Alors que la commission d'enquête du Sénat rend son rapport cet après-midi, on a justement choisi de s'intéresser aux propositions des candidats en la matière. La santé, on le rappelle, c'est avec le pouvoir d'achat la préoccupation principale des Français. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Tous les candidats sont d'accord sur un point, le diagnostic.
Oui, c'est vraiment l'unanimité. C'est vrai que tous les candidats partagent le même constat assez catastrophique sur un hôpital totalement à bout de souffle, hein, essoré par deux ans de crise sanitaire, de pandémie. Un hôpital qui a été mis au régime sec par dix ans de coupes budgétaires. Alors tous les candidats assurent en effet qu'il faut remettre des moyens, du personnel, des lits. Il faut, disent-ils en chœur, plus de médecins, plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants.
Alors, plus de personnel, ok, mais ils font comment?
Alors, chacun a ses solutions, vous allez le voir. Chez Valérie Pécresse, on envisage par exemple de créer 25 000 postes de soignants supplémentaires en 5 ans et de réduire les postes des administratifs. Qui dit mieux? Éric Zemmour avance, lui, le chiffre de 40 000 personnels hospitaliers supplémentaires. Où va-t-on chercher ces médecins? Eh bien, d'abord dans les facultés, lorsqu'on les forme. Anne Hidalgo veut, par exemple, augmenter ce fameux numerus apertus, hein, ce nombre minimum qui a remplacé le numerus clausus pour les études en santé, à 15 000 médecins formés chaque année contre 11 000, par exemple, à la rentrée 2021. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, est un peu sur la même ligne.
Ce que nous proposons, c'est de lever vraiment le numerus clausus, permettre à 12 000 médecins, 12 à 15 000 médecins par an de pouvoir exercer la profession. Nous demandons à ce que l'installation de médecins dans des zones densément peuplées en médecins se fasse si il y a le départ d'un médecin.
Voilà, c'était Fabien Roussel pour le Parti communiste. Éric Zemmour, pour Reconquête, lui, veut doubler les capacités de formation en 5 ans. Mais cela, évidemment, ce sont des mesures qui ne feront effet, bien sûr, que dans très longtemps.
Il faut le temps de les former.
10 ans pour former un médecin. Et puis, quand on interroge ces médecins, eh bien, ces promesses, en fait, elles ne soulèvent pas vraiment d'enthousiasme ni d'emballement. Ils nous disent on peut multiplier par 4, par 5, par 6 le nombre de personnels formés. Ils ne viendront pas à l'hôpital. Car augmenter ce chiffre, c'est ce qu'assurent en tout cas beaucoup de soignants, ça ne redonne ni l'envie ni l'enthousiasme pour cet hôpital, on l'a dit, à bout de souffle. Tant que la seule question, ce sera de produire plus de soins chaque année, eh bien les soignants continueront à le quitter.
Alors, c'est ce que vous disiez, évidemment, parce qu'il faut des candidats et il faut des gens qui veuillent venir
travailler.
Absolument,
il faut
travailler.
De l'attractivité, tout à fait. Alors, ça passe aussi par les salaires. Mmh. Vous savez que les soignants, de ce côté-là, ne sont pas très gâtés. Alors, chacun avance des chiffres. Voici ceux de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national.
Une enveloppe de 2 milliards d'euros sur 5 ans sera consacrée à la revalorisation de l'ensemble des personnels soignants exerçant à l'hôpital. En parallèle, au moins 10 000 places supplémentaires seront ouvertes dans les instituts de formation en soins infirmiers et les centres de formation d'aides-soignants.
Marine Le Pen qui veut revaloriser également le salaire des infirmiers de 10%. Pour améliorer encore l'attractivité de ces métiers dans ce secteur, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise propose des contrats d'études avec une rémunération au SMIC à condition que les futurs soignants s'engagent à servir dans le public pendant un certain nombre d'années. Et puis Philippe Poutou pour le NPA prévoit une revalorisation immédiate de 400 euros par mois des hospitaliers. Éric Zemmour, quant à lui, veut augmenter de 12% les salaires des aides-soignants et des infirmiers. Et enfin, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts de 10% le salaire net des infirmières.
Dernier point, Odile, soulager l'hôpital, c'est aussi le désengorger.
Absolument. Alors, pour Emmanuel Macron, candidat de La République En Marche, ça passe par un recours accru à la téléconsultation pour éviter les réhospitalisations. Idem pour Marine Le Pen, qui veut investir massivement dans la télémédecine. Éric Zemmour, lui, il a une proposition assez radicale. Il veut réembaucher les soignants non vaccinés qui ont été suspendus. Jean-Luc Mélenchon, il veut créer des services de santé de proximité à moins de 30 minutes de chaque domicile des Français. Même solution pour Fabien Roussel, le communiste. Et enfin, pour Anne Hidalgo, la solution, ça serait d'inciter les soignants libéraux à prendre des permanences dans les hôpitaux.
Je n'ai pas entendu diminuer l'administration ou l'administratif.
Il y a des candidats qui le disent.
Qui est le premier employeur de l'Île-de-France, un tiers des personnes de la PHP n'ont pas vu un malade de leur vie. Ce ne sont que des administratifs. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ce n'était pas du tout ce rapport-là. Merci beaucoup, Odile Pouget. Il va faire froid, Odile.
Oui,
couvrez-vous.
Couvrez-vous parce qu'il va faire froid, il va faire de la neige demain.
Vous dites ça parce que je suis en petit pull.
Ben oui, mais couvrez-vous. Je prends soin de vous et demain, c'est la neige. Et c'est le 1er avril et ce n'est pas une blague. À tout de suite avec Louis Baudin.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
La France va prendre froid. Hein. C'est retour aux moufles après avoir sorti le barbecue le week-end dernier. En clair, moins 15 degrés en 4 jours.
On vous en parle depuis le début de la semaine. Ça se confirme, l'hiver est donc de retour. Alors, dans quelle proportion, jusqu'à quand faut-il s'inquiéter pour nos jardins? Y a-t-il un rapport avec le réchauffement climatique? On va essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez avec nous. Louis Baudin, bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
et Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Louis, d'abord, cette neige précisément, c'est pour quand ? Alors, non, je me souviens parce qu'à une époque où on travaillait ensemble il y a un certain temps, vous étiez capable le jour même de me dire ce matin il va neiger à Paris à telle heure. C'est pour ça que je vous pose la question aussi précisément.
Oui, alors c'est vrai que ça, dans 24 heures, quand on en sera effectivement à ce court laps de temps, je pourrais être encore plus précis. Mais là aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça va commencer la nuit prochaine dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment sur la Normandie, puis progressivement durant la nuit et la matinée, ça arrivera sur l'Île-de-France. Et puis ensuite, tout au long de la journée de demain, cet épisode de neige va glisser quasiment de la frontière belge jusqu'au massif central, puis la région Midi-Pyrénées. C'est surtout sur cet axe où on attend des chutes de neige pouvant aller. Alors là aussi, ça sera très disparate. Hein. Je sais très bien, certains vont me dire « Oh, ben moi j'ai vu quelques flocons » et puis d'autres auront peut-être jusqu'à 4-5 cm. Hein. Je pense à la région centre, peut-être sur une partie de la Normandie également, ou encore sur la Picardie. De part et d'autre, c'est-à-dire vers l'Atlantique, là on restera à l'écart de cet épisode neigeux. Et puis dans l'Est, cet épisode arrivera plus tard, plutôt dans la nuit de vendredi à samedi et durant la journée de samedi.
Alain Baraton, de la neige à un 1er avril, est-ce que c'est gênant pour les jardins ?
Absolument pas, parce que les jardiniers savent que le véritable printemps, en fait, c'est le mois de mai. À Versailles, les plantes fragiles en caisse d'oranger, par exemple, ne sont sorties qu'à partir du mois de mai. Le 1er mai 1946, il y avait à Versailles plus de 50 cm de neige. Alors, pour nous, tout est habituel. Nous prenons nos précautions. Nous ne mettons pas les plantes gélives à l'extérieur. Nous attendons que l'hiver, le vrai, se termine réellement.
Alors, vous parlez du 1er mai 1946, on a retrouvé une archive justement de cette année-là. Alors, ce n'était pas 40 cm ou 50 comme vous le disiez dans les jardins de Versailles. Nous, ça date du mois de mars, l'archive qu'on a retrouvée. 30 cm de neige à Paris, écoutez.
Mégève, Luchon, Davos, Saint-Maurice, Paris, tout simplement. La neige a accompli ce miracle de transformer en station de sport d'hiver les jardins du Trocadéro. Et parisiens et parisiennes, que retient ici le malheur des temps, ont pu pour deux jours chausser les skis et réinventer descente et slalom à l'ombre de la tour Eiffel.
Ça, c'était donc fin mars 1946. Ça veut dire, Louis, c'est exceptionnel de la neige comme ça, fin mars, début avril ou non ?
Alors, c'est pas habituel, mais en même temps, c'est pas exceptionnel. Hein. Effectivement, on peut avoir de la neige, quand on regarde l'histoire, jusque quasiment début mai. Hein. Effectivement, voilà pourquoi on sort de cette période à risque quand on arrive à la fin du mois d'avril, là où on le dit d'ailleurs, hein, ne te découvre pas d'un fil, ça a un vrai sens. C'est-à-dire que c'est un mois intermédiaire où on peut déjà avoir une grande douceur, mais encore un peu d'activité hivernale, donc des petits retours de froid, ou encore même d'épisodes de neige, et c'est ce qui va se passer durant le week-end. Alors, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que ça ne devrait pas durer trop longtemps. À partir de lundi, déjà, on retrouvera de l'air plus océanique, avec donc une légère remontée des températures. Et là, ça sera peut-être un peu moins prégnant, ou en tout cas un peu moins dangereux pour les plantes et les végétaux.
Et Louis Baudin est en direct avec nous pour RTL. J'ai une question.
Pas de rapport, évidemment, avec le dérèglement climatique. Je ne vais pas vous faire ce coup-là.
Hein,
c'est pas exceptionnel, mais bon, ça arrive.
Voilà. Ça arrive. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. D'ailleurs, souvent, on a tendance à vouloir associer chaque événement particulier au réchauffement. Non,
c'est ça qui est un peu agaçant parfois. Voilà. On a l'insentiment que tous ces épisodes climatiques sont parfois instrumentalisés par ceux qui veulent mettre en avant cela précisément.
En fait, le réchauffement en France, il se manifeste principalement par des dates, par exemple, de plantation, par des moissons qui, généralement, se font à des dates un peu plus précoces, par exemple, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, ou encore les vignerons qui en parlent très bien en disant les vendanges, on a tendance à les avancer un petit peu, même s'il y a toujours des années où ça va se produire un peu plus tard. Oui. Donc c'est comme ça que l'on voit le dérèglement, mais chaque événement particulier n'est pas forcément associé à ce dérèglement.
Alain Baraton, je reviens à nos jardins. On a eu exceptionnellement beau et chaud la semaine dernière, il faisait doux. Est-ce que du coup ça peut avoir agi sur certaines plantes, tout bêtement, est-ce que, je ne sais pas, certaines ont bourgeonné alors qu'elles n'auraient pas dû tout de suite?
Oui, bien sûr. Non, votre réflexion est judicieuse. Il y a deux problèmes, les jeunes pousses, par exemple des rosiers qui risquent de pâtir du gel, et bien entendu la floraison de quelques arbres fruitiers. L'arbre, lui, il a été bâti pour résister à des moins 15, moins 20, mais la fleur, elle, est fragile, et si le froid bien se concrétise réellement ce week-end. Il y a fort à parier que là où il a gelé, il n'y aura guère d'abricots, de pruniers, d'amandes ou de pêches, comme ce fut d'ailleurs le cas l'an dernier. Mais la situation n'est absolument pas dramatique. Ce qu'il faut faire, par contre, si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est surtout de ne pas rentrer les plantes à l'intérieur. Le choc thermique est encore pire que les dégâts causés par le froid. On laisse les végétaux fragiles dehors. On les recouvre simplement maintenant d'une toile d'hivernage ou même d'une vieille couverture si on en a une. Si la neige se dépose sur votre pelouse, ne montez pas sur la pelouse. Vous risquez de casser les brins d'herbe et le jaunissement sera visible longtemps au printemps. Et puis, il y a une règle d'or dans le jardinage. On ne taille pas un végétal, on ne plante pas quand il gèle.
Mais j'ai souvenir qu'un coup de froid avait mis en difficulté les viticulteurs et notamment ce qui se passe parfois dans les vignes. Est-ce qu'un coup de froid peut annuler toute une récolte ?
Oui, complètement, bien entendu. Les arboriculteurs doivent regarder aujourd'hui, et les viticulteurs aussi, le baromètre avec angoisse. La plante, elle, prenons l'exemple simple du cerisier. Le cerisier résiste à moins 15, moins 20 degrés sans aucune difficulté. Mais sa fleur, elle, elle est printanière, elle est hâtive. Et les organes de la fleur, ceux qui vont se transformer en fruits, eux, craignent le froid. Ce qui signifie que si le froid, aujourd'hui, tombe sur les fruitiers en fleurs, les fleurs vont être détruites et ne donneront pas de fruits.
Et ça, en moins de 24 heures, ça suffit pour annuler une récolte ?
En quelques heures seulement, malheureusement. Alors, tout dépend, bien sûr, de l'intensité du froid. Si on a quelques plantes auxquelles on tient, il est toujours possible, le matin, de les arroser. Alors, bien entendu, sauf s'il fait moins 15, bien évidemment.
Non, mais il fera sans doute entre 0 et 3 degrés.
Dans quel cas les dégâts devraient être, je pense, extrêmement limités. Mais il ne faudrait pas que cette vague de froid dure trop longtemps, car soit c'est l'intensité du froid qui tue la fleur, soit la durée du froid.
Alain Baraton, plein de petits conseils très concrets, on l'a bien compris. Surtout, on ne rentre pas donc ces plantes.
Louis,
ça doit durer combien de temps cet épisode ? Au-delà du week-end ou
non ? Alors non, ça devrait s'arrêter 15 juillet. À la fin du week-end. Hein. non, surtout pas. À partir de lundi, déjà, on va changer de masse d'air. Donc c'est de l'air un peu moins froid qui va revenir.
Il est temps.
Avec toujours des précipitations d'ailleurs, mais plus sous forme de neige, mais bien depuis. Il neigera seulement en montagne, si je puis dire. Non, la plus grande difficulté, elle va être durant le week-end. Moi, c'est en particulier les deux nuits, celle de vendredi à samedi et celle de samedi à dimanche, où il faudra surveiller la baisse des températures. Et c'est là où la végétation peut en souffrir. Notamment, c'est toujours le même principe, hein, si le ciel arrive à se dégager, notamment dans la nuit de samedi à dimanche, on pourrait avoir de fortes gelées au réveil dimanche. Et là, ça pourrait être gênant pour les plantations. Donc, en fait, plus les nuages vont rester malgré ce froid durant le week-end, plus ça va être un allié pour nos végétaux.
C'est le marathon de Paris ce week-end ?
Dimanche, oui. Marathon de Paris.
Il va falloir se réchauffer en courant.
Ah oui, là ils ont raison de courir pour se réchauffer.
Nous dit Damien Béchaud, pourquoi pas.
Effectivement, ça pourrait être glissant. Bah écoutez, merci beaucoup.
Oui, merci à tous les deux pour tous ces conseils. On a à peu près tout dit, je crois.
Je pense qu'on a à peu près tout dit.
On se couvre donc, vous avez compris.
Exactement, et si demain à 7h vous écoutez Yves Calvi et qu'il annonce 30 cm de neige dans Paris, alors que nous sommes le 1er avril...
Ce n'est pas une blague.
Voilà,
si.
J'imagine que certains
non, 30 cm, on a bien compris.
Il y a quand
même
peu de chance. Hein, voilà. Dans Paris, c'est pas sûr du tout que...
Avec Yves Calvi, tout est possible. Il est 12h58, à tout de suite.
RTL Midi. Dans la vie.